Nous en sommes au quatrième jour de la retraite. Et j'aimerais aujourd'hui lire et commenter le Koan 29 du Shumon Katoshu, un recueil de 272 Koans, connu en Occident sous le titre « Entangling Vines ». Cette collection de Koans date du 17e siècle. Et elle est la seule à avoir été compilée au Japon plutôt qu'en Chine. Les auteurs en restent inconnus. Mais cette collection regroupe tous les koans qui sont étudiés encore aujourd'hui par les moines de l'école du Zen Rinzai au Japon. Le koan se dit comme suit. Un moine demanda à Unmon, si l'on tue son père et sa mère, l'on peut s'en repentir auprès du Bouddha. Mais si l'on tue le Bouddha et tous les patriarches, auprès de qui peut-on s'en repentir? Unmon répondit, « Exposé. » Tuer le Bouddha et les patriarches. Cette expression apparaît souvent dans les textes du Zen. On la retrouve, par exemple, dans l'un des sermons du maître Basui, lorsqu'il dit « Voyez que tout ce qui apparaît dans votre esprit est une forme, et cessez de calculer ou d'analyser. Toutes vos pensées sont des illusions. Tuez le Bouddha lorsqu'il apparaît dans votre esprit, et aussi les ancêtres et les gens ordinaires lorsqu'ils apparaissent dans votre esprit. Détruisez le monde lorsqu'il apparaît, et aussi le vide s'il apparaît. Ne vous attachez à rien. » Une expression similaire se trouve aussi dans le commentaire du maître Mumon sur le Koan Mu, lorsqu'il exhorte ses étudiants à franchir tous les obstacles en leur disant « Si vous rencontrez le Bouddha, vous tuerez le Bouddha. Si vous rencontrez les patriarches et les maîtres, vous tuerez les patriarches et les maîtres. » Et l'on retrouve la même expression dans les annales du maître Rinzai qui vécut au IXe siècle. Dans l'un de ses discours, Rinzai adresse les mots suivants à ses étudiants. « Quoi que vous rencontriez, en vous ou autour de vous, éliminez-le sur le champ. Si vous rencontrez un Bouddha, tuez le Bouddha. Si vous rencontrez un ancêtre, alors tuez cet ancêtre. Si vous rencontrez un saint homme, alors abattez-le. Si vous rencontrez vos parents, alors tuez vos parents. Si vous croisez les membres de votre famille, détruisez-les. En ne vous attachant à rien, vous traverserez tout librement. » En utilisant des expressions telles que « Tuez le Bouddha, c'est les patriarches. » Ou « Si vous rencontrez vos parents, alors tuez vos parents. » Basui, Mumon et Rinzai exhortent leurs étudiants à aller au-delà de tout ce qui se manifeste en eux ou en dehors d'eux-mêmes, à ne s'attacher à rien afin de se définir eux-mêmes, à renoncer à toute identité, à aller au-delà de toutes leurs convictions et expériences et à ne jamais s'arrêter en chemin. Ces maîtres du Zen exhortent leurs élèves à tout laisser derrière eux, à ne s'encombrer d'aucune réponse, d'aucune représentation ou image, à foncer tête baissée dans l'incompréhensible mystère de leur propre existence. Maître Eckhart, l'un des grands mystiques allemands du Moyen Âge, l'exprimait autrement en disant « Je prie Dieu d'être libre de Dieu. » Et il poursuivait en disant « C'est là la pauvreté la plus essentielle que l'on puisse contempler. » Un moine demande donc au maître Unmon « Si l'on tue son père et sa mère, l'on peut s'en repentir auprès du Bouddha. Mais si l'on tue le Bouddha et tous les patriarches, auprès de qui peut-on s'en repentir? Qui viendra alors nous libérer de notre peine immense. Devrons-nous toujours souffrir si personne n'est plus là pour nous pardonner nos fautes? Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire quelques mots au sujet de Maître Unmon, qui est l'un des plus grands maîtres du Zen. Il a vécu de 864 à 949, c'est-à-dire vers la fin de ce que l'on a appelé l'âge d'or du Zen en Chine. Il étudia auprès du maître Dao Ming, et leur première rencontre vaut la peine d'être racontée. Après avoir longtemps dirigé un monastère où plusieurs centaines de moines étudiaient auprès de lui, le maître Dao Ming quitta son monastère à un âge avancé et décida de s'isoler du monde. Il fut bientôt considéré comme une sorte d'ermite excentrique. Il refusait de rencontrer les moines qui venaient le consulter et traitait avec la plus grande sévérité ceux qui osaient s'attarder. Un jour, Unmon frappa à sa porte. Dao Ming, fidèle à son habitude, refusa de répondre. Unmon persista cependant et frappa avec insistance. Excédé, Dao Ming ouvrit sa porte et avant qu'il la referme, Unmon glissa une jambe dans l'ouverture. Dao Ming le saisit alors au col en criant « Parle, parle !» Voyant qu'Unmon hésitait, Dao Ming referma sa porte sur la jambe d'Unmon, la brisant d'un coup. Unmon hurla de douleur et connut sur le champ un grand éveil. Je ne vous recommande évidemment pas d'imiter Unmon. Soyez simplement attentif et prudent lorsque vous ouvrez ou fermez une porte. Cela devrait suffire. Il n'est en aucun cas nécessaire ou même utile de se briser une jambe pour connaître l'éveil. Et cela n'est recommandé nulle part dans les textes bouddhistes. Pour sa part, Unmon dut boiter tout au long de sa vie à la suite de cette première rencontre avec Dao Ming. Il devint l'un des grands maîtres du Zen en Chine, mais il ne put jamais s'asseoir en lotus complet à cause de son infirmité. La tradition raconte cependant, peut-être est-ce une légende, qu'à l'âge de 85 ans, alors qu'il allait mourir, Unmon s'adressa à sa jambe, lui disant « Je t'ai obéi toute ma vie. Aujourd'hui, ton tour est venu de m'obéir. » Il s'assit alors en lotus complet, brisant à nouveau sa jambe pour y arriver. Il mourut dans cette position. Unmon est resté célèbre pour la brièveté des réponses qu'il donnait aux questions de ses élèves. Il ne s'embarrassait jamais de longs discours et érigeait devant ses moines ce que l'on en est venu à appeler des barrières faites d'un seul mot. Le koan que nous explorons aujourd'hui en est un parfait exemple. Le moine demande: si l'on tue son père et sa mère, l'on peut s'en repartir auprès du Bouddha. Mais si l'on tue le Bouddha et tous les patriarches, auprès de qui peut-on s'en repartir? Et Maître Unmon répondit: exposé. Attardons-nous un peu à la question du moine. Il commence en disant: si l'on tue son père et sa mère, c'est un crime très grave, n'est-ce pas? Les conceptions sociales du confucianisme, qui avaient façonné la culture chinoise, accordaient une très haute valeur aux liens familiaux et au respect des ancêtres. Un tel crime devait à cette époque paraître absolument monstrueux, incompréhensible et impardonnable. Voilà ce que le moine nous invite à considérer. Si l'on commet le pire, par exemple, tuer ses propres parents ou même ses enfants? Où pourra-t-on jamais trouver le pardon? Comment pourra-t-on jamais effacer une telle faute? Le moine poursuit en disant, « Si l'on tue son père et sa mère, l'on peut s'en repentir auprès du Bouddha. » Il y a un koan tiré d'un recueil de koan compilé au XIIe siècle par le maître japonais Dogen, qui fait écho, me semble-t-il, aux paroles du moine. Dans ce koan, un officier militaire visite le maître Seiken à son retour du front et raconte que l'armée qu'il commande a tué un nombre incalculable de gens. Est-ce bien ou mal? Demande-t-il alors. Et maître Seiken lui répond, « Ce vieux moine observe la réalité de très près. » Le vieux maître laisse donc l'officier militaire sans réponse. Là où ce dernier espérait peut-être trouver un peu de clarté pour le guider hors de l'obscurité de ses propres doutes, il ne trouve qu'une nuit encore plus obscure. Le maître n'offre aucune consolation à l'officier. Il lui dit simplement, « Je regarde la réalité de très près. » Regarder les choses de très près, c'est entrer en intimité avec elles. Les approcher sans rien déranger, sans chercher à les modifier d'aucune manière. Les laisser se révéler de leur propre accord et en leur propre temps, comme des fruits mûrs qui se détachent de leurs branches. Lorsque le moine dit à Unmon, « Si l'on tue son père et sa mère, l'on peut s'en repentir auprès du Bouddha. » Qu'est-ce que cela signifie? Si vous vouliez ici même, dans ce zendo, vous repentir de vos fautes auprès du Bouddha, dans quelle direction vous tourneriez-vous pour trouver le Bouddha? Regarderiez-vous vers l'autel? Croyez-vous qu'un Bouddha s'y trouve? Où pourrons-nous jamais trouver la clémence pour tous nos errements? Suffit-il de les avouer, de les confesser à un autre être humain, à un dieu ou à Bouddha, pour en être lavé et purifié? Si maître Seiken s'était trouvé près de ce moine, il lui aurait peut-être chuchoté à l'oreille. Ce vieux moine observe tout cela de très près. Le moine croit donc que l'on peut se repentir de ses fautes, même les plus terribles, auprès du Bouddha. Mais il demande maintenant à Unmon si l'on tue le Bouddha et les patriarches. Auprès de qui peut-on s'en repentir? S'il n'y a plus aucun Bouddha, aucun patriarche, aucun dieu à qui confesser ses fautes afin de s'en repentir, vers qui se tourner pour en être consolé et libéré? S'il n'y a plus personne, ni Bouddha, ni patriarche, ni dieu, vers qui me tourner pour expier mes erreurs et mes fautes? Comment pourrais-je jamais en être libéré? Qui pourra me pardonner? Voilà ce que demande le moine à maître Unmon. Et sa question est sincère. Elle est remplie d'angoisse et d'impuissance. Qui viendra lui enlever le poids de ses fautes et de la souffrance qu'il s'est infligée à lui-même et qu'il a infligé aux autres? Comment pourrait-il jamais les expier et en être libéré? Comment réussira-t-il jamais à tuer le Bouddha et les patriarches, à tuer son père et sa mère, comme lui demandent de le faire Basui, Mumon et Rinzai, si ce faisant, il se condamne lui-même à errer seul avec ses remords et sa souffrance tourmentée dans un monde où le pardon n'existe plus? Et maître Unmon lui répond, « Exposé. » tout comme le moine qui interroge une monne. Nous arrivons, nous aussi, au zen avec l'espoir d'y trouver quelque chose. Que cherchons-nous? Pour certains, c'est une vie remplie de sens, une vie qui leur semblera avoir une valeur réelle et une raison d'être. Ils seront alors plus sereins, plus calmes, sans inquiétude ni remords. Ils échapperont à l'ennui ou à l'agitation de leur vie quotidienne. Ils aimeront enfin vivre, et ils imaginent qu'ils sauront alors spontanément comment mieux s'adapter aux circonstances de leur vie. D'autres cherchent la vérité, la quiétude ou la paix. Certains parlent d'éveil, de lumière, de conscience cosmique ou de transcendance. Nous voulons tous quelque chose. Mais que cherchons-nous vraiment? Ici, le moine qui interroge une monne avec tant de sincérité cherche le pardon de ses fautes. Ce que l'on appelait autrefois, c'est-à-dire lorsque j'étais jeune, la rémission des péchés. À cette époque, si nos aveux et notre repentir étaient sincères, l'on nous disait qu'un Dieu bienveillant allait nous libérer de toutes nos fautes. Certains d'entre vous, les plus âgés évidemment, se souviennent encore de la confesse, n'est-ce pas? Nous étions de jeunes écoliers et écolières, et périodiquement nous quittions nos classes pour nous rendre en groupe à l'église catholique du quartier où nous devions, les uns après les autres, après une plus ou moins longue période d'attente, nous rendre dans un confessionnal, afin d'y rencontrer en privé un prêtre confesseur. Vous entrez alors dans le confessionnal, une sorte d'isoloir clos, plutôt obscur. Vous en fermez la porte derrière vous, vous vous agenouillez sur un prie-Dieu et vous attendez en silence. Dans la pénombre, le prêtre fait alors coulisser un volet de bois. Et son visage apparaît, un peu voilé et plus ou moins distinct derrière un grillage. Il fait un signe de croix sans vous regarder et murmure quelques paroles d'accueil. Il vous demande ensuite quelle faute vous avez commise depuis votre dernière confession. La plupart du temps, je débitais alors une série de péchés véniels, c'est-à-dire sans grande gravité, que j'avais largement inventé pendant la période d'attente sur le banc d'église. Le prêtre posait quelques questions, prodiguait quelques recommandations et conseils spirituels, nous infligeait une pénitence, généralement de réciter quelques prières, afin d'expier nos fautes, et il nous donnait alors l'absolution. Ce qui, nous disait-on, nettoyait notre âme de toute souillure. Voilà ce qui nous tenait lieu de confession. Un rituel sans âme, une parodie sans sincérité. Et pourtant, voyez ce qu'en dit Jésus dans l'Évangile de saint Matthieu. Il commence en disant « Et quand vous priez, il aurait pu dire « quand vous vous confessez ». Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment faire leurs prières debout dans les églises et les places publiques, afin d'être vus des hommes. Pour toi, quand tu veux prier, entre dans la chambre la plus retirée de ta maison, verrouille ta porte, et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le véritable travail spirituel est toujours solitaire, et il est à la fois un travail d'amour et d'humilité. Ce travail nous demande inévitablement de devenir intime avec la douleur de l'humiliation et la vulnérabilité réelle de notre condition humaine. Il nous demande de renoncer à nous débattre, à blâmer les autres et le monde, ou à nous justifier de nos fautes. Le véritable travail spirituel, que l'on pratique le zen ou toute autre voie spirituelle authentique, nous demande de rester exposés, sans armure, sans protection. Comme le dit quelque part Nisargadatta, soyez nus, exposés au vent et à la pluie de la vie, et vous aurez une chance. Monsieur Lowe disait parfois qu'il nous fallait traverser le feu 1000 fois. En zazen, l'on ne cherche rien, aucun pardon, aucune absolution. L'on reste simplement exposé, comme le dit Unmon au moine qui l'interroge. L'on reste sans défense, sans rien refuser ni retenir. L'on renonce à fuir, à porter un masque ou à atteindre quoi que ce soit. On laisse ce qui monte en nous nous révéler notre vrai visage, et l'on s'ouvre à ce qui se manifeste sans rien chercher d'autre. L'on regarde la réalité de très près, comme le dit Maître Seiken à l'officier militaire. C'est comme si l'on disait à tout ce qui monte en nous, je t'écoute. Si l'on adopte cette attitude, qui est celle d'un auditeur attentif, prêt à tout entendre, alors peu à peu, ce qui monte en nous semble s'apaiser et se vider de tout contenu. L'esprit est éveillé, mais ne s'appuie sur rien. C'est comme une interrogation totale, mais sans contenu. Et elle reste sans réponse car elle n'en comporte pas. Une attention vigilante, tendue comme un arc, mais sans objet. En zazen, accordez toute votre attention à votre respiration. Unifiez votre esprit et votre respiration. Laissez-vous respirer. N'intervenez pas. Soyez seulement attentif, à l'écoute. Sans rien faire, vous verrez votre respiration s'allonger. Laissez-la descendre jusque dans le bas de votre ventre, dans cette région du corps que l'on appelle le hara, et qui est le centre énergétique naturel de notre corps. Laissez la gravité tirer votre respiration toujours plus profondément vers la terre. Donnez-lui toute votre attention. Peu à peu, une énergie subtile, le ki, qui est l'énergie de votre propre concentration, se développera en vous et se déversera naturellement dans votre pratique. Votre corps, votre respiration et votre attention en viendront à s'unifier avec aisance et légèreté. Dès que votre attention quittera votre respiration pour s'attarder sur des pensées, ce qui est inévitable, votre énergie se dissipera, vous le sentirez. Vous perdrez alors une énergie précieuse à chérir et à vouloir retenir des contenus mentaux vides et sans objet. Puis vous les abandonnerez et vous reviendrez vers votre respiration. Vous poserez à nouveau votre attention sur elle, mais pendant un certain temps, vous continuerez à ressentir une certaine excitation dans tout votre corps. Peu à peu, celle-ci diminuera et votre esprit s'apaisera. Vous pourrez alors à nouveau unifier votre corps, votre respiration et votre esprit. Puis une autre vague de pensée s'élèvera. Parle, je t'écoute. consentez seulement à toujours vous tenir là, exposé et sans défense. Regardez la réalité de très près. Puis revenez humblement votre respiration et tout ira bien. Un jour, un moine demanda à un moine, « Si l'on tue son père et sa mère, l'on peut s'en repentir auprès du Bouddha. Mais si l'on tue le Bouddha et tous les patriarches, auprès de qui peut-on s'en repentir ?» Un moine répondit, « Exposez. »